Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 109 ans, aujourd'hui disparaissait le grand écrivain Émile Zola, père du naturalisme en littérature. Alors officiellement, cette mort est toujours considérée comme accidentelle, mais cela fait longtemps que la thèse du meurtre a été avancée, et c'est précisément celle que défend Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a comme ça des vérités officielles qui ont la vie dure. Nos auditeurs les plus fidèles le savent bien, je sais qu'ils sont nombreux, je les salue. Si vous ouvrez une encyclopédie à l'article Émile Zola, vous allez voir que l'auteur des Rougon-Macquart est mort asphyxié par accident dans la chambre de son appartement. Eh bien, cette version, cela fait maintenant plus d'un demi-siècle qu'elle a été sérieusement mise en doute, et nous allons voir pourquoi dans un instant.
Votre invité Franck est un des grands témoins de cette affaire, l'homme qui en 1953 a recueilli un incroyable témoignage à charge. C'est le moment de lui poser vos questions sur le site internet d'Europe 1.
Oui, à l'époque, Jean Bedel était journaliste à Libération. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Vous allez constater que ce qu'il raconte est inouï.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Émile Zola et sa femme Alexandrine, en ce tout début de siècle, ont des habitudes bien réglées. Ils passent toute la belle saison à la campagne, à Médan, sur les bords de la Seine, et puis, quand l'automne arrive, ils rentrent à Paris jusqu'au printemps suivant. Leur appartement parisien se trouve dans ce qui à l'époque est le nouveau quartier de l'Europe, au 21 bis avenue de Bruxelles. Leur retour, c'est invariable, a lieu précisément le soir du dernier dimanche de septembre. Eh bien, en cet automne 1902, ça veut dire que le grand écrivain a 62 ans, aucune raison pour les Zola de changer d'habitude. Dans la soirée du dimanche 28 septembre, ils prennent donc le train à Médan, direction Paris. On est à l'époque des grosses locomotives à vapeur, des ribambelles de mâles que porte une armée de grooms, des fiacres aussi qui, depuis le parvis de la gare, desservent les différents arrondissements. Oh, pour les Zola, pas besoin d'aller loin, la rue de Bruxelles est toute proche de la gare Saint-Lazare. Leur maître d'hôtel, Jules de la Halle, les a précédés à Paris de 2 ou 3 heures afin de mettre l'appartement en état. Et comme il commence à faire un petit peu frisquet, et surtout que le maître d'hôtel a trouvé l'appartement humide, il a décidé de réchauffer la chambre de monsieur et madame Zola. Jules allume donc dans la cheminée quelques boulets de charbon. Surprise, une fumée épaisse ne tarde pas à refouler vers la pièce. « Étrange, pense-t-il, cette cheminée qui tirait si bien au printemps avant le départ pour Médan, voilà qu'elle fume à présent. » Le maître d'hôtel n'insiste pas, il baisse le rideau métallique de la cheminée, il croit tout éteindre. Ce faisant, il ne remarque pas que dans le foyer, derrière l'écran de fer, le charbon continue de se consumer lentement. Tout de même, à l'arrivée de ses patrons, Jules donne à madame Zola la raison pour laquelle il n'a pas pu maintenir le feu dans la cheminée de la chambre. Elle comprend et elle lui demande de prévoir la venue dès le lendemain, ou plutôt d'artisans compétents. Comment pourrait-elle deviner que le lendemain, tout sera différent? Comment pourrait-elle s'imaginer que son célèbre mari, Émile Zola, ne va pas survivre à la nuit qui s'annonce? Le lundi 29 septembre, les ramoneurs se présentent dès 8h, seulement, contrairement à leurs habitudes, monsieur et madame Zola ne sont pas encore levés. Jules fait donc patienter les ouvriers et puis à 9h30, inquiet quand même, alarmé de ne pas voir ses patrons se lever, il fait enfoncer leur porte, désastre. C'est pour découvrir une scène de cauchemar, les Zola gisent, inanimés, l'écrivain est allongé par terre sur le tapis, le long de la marche de bois parce que le lit est surélevé. Quant à sa femme, elle est restée sur le lit. On appelle aussitôt des médecins qui arrivent en urgence. Madame Zola a perdu connaissance, mais on va réussir néanmoins à la ranimer. Pour son mari, par contre, c'est trop tard. Les exercices de réanimation ne donnent rien. Et bientôt, la nouvelle va faire le tour du monde. Émile Zola est mort.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1 du générique de Germinal, le film de Claude Berry sorti en 1993, Franck.
Alors pour les enquêteurs de police, ils sont arrivés tôt, les policiers rue de Bruxelles, ce 29 septembre 1902. Pour eux, la conclusion des médecins est limpide. Les époux Zola ont été victimes d'une intoxication à l'oxyde de carbone due à cette consommation lente et insidieuse des boulets de charbon dans le foyer. Le conduit de la cheminée avait été obstrué, d'où cette fumée qui refluait peu à peu vers la chambre. La femme a donc survécu, pas le mari. Apparemment, il ne s'agit pas d'un suicide, encore moins d'un meurtre. Le grand écrivain serait mort accidentellement. Je ne vais pas entrer tout de suite dans les détails d'une enquête qui a été bizarrement menée. Nous allons y revenir tout à l'heure en compagnie de Jean Bedel. Sachez seulement que cette affaire est classée sans suite dès janvier 1903 et que, 109 ans plus tard exactement, à l'heure où je vous parle, le point de vue de la police qui conclut à l'asphyxie accidentelle fait toujours office de vérité admise. C'est, si vous voulez, la thèse officielle. Mais forcément, si je vous parle d'une thèse officielle, c'est qu'il en existe une autre. Et voilà tout l'intérêt de cette histoire. Nous allons faire un saut d'un demi-siècle en avant et nous retrouver, si vous le voulez bien, en 1953. Cette année-là, la rédaction du journal Libération reçoit une lettre signée d'un illustre inconnu, Pierre Aquin. Et dans son courrier, ce Pierre Aquin affirme que non seulement Émile Zola, 50 ans plus tôt, aurait été assassiné, mais que lui, Aquin, aurait reçu des aveux de la bouche même de l'assassin. Parlez d'un scoop. Le jeune journaliste de Libération chargé de l'enquête se nomme Jean Bedel, vous l'avez compris, c'est lui qui aujourd'hui nous fait la joie d'être avec nous dans ce studio. Jean Bedel commence par constituer tout un dossier, évidemment. Il apprend que les dossiers judiciaires du département de la Seine pour l'année 1903 ont disparu. Surtout, il se rend dans la Manche, à Tessy-sur-Vire, afin d'y rencontrer le fameux Pierre Aquin. Et voilà ce que lui dit le grand témoin. Dans les années qui ont suivi la guerre de 14-18, j'habitais Sarcelles en Seine-et-Oise, on disait comme ça à l'époque, donc on dirait aujourd'hui dans les Yvelines, et j'étais préparateur en pharmacie à Paris, rue Ordonnère. J'ai rencontré Henri Buron-Fosse au sein d'un comité politique local appelé Comité d'Union Républicaine. Mon amitié avec Buron-Fosse vient de nombreux trajets faits en commun. Nous prenions très souvent le même train, le dernier départ pour Sarcelles vers 22h30 à la gare du Nord, et nous bavardions beaucoup dans l'intimité du compartiment. Or, raconte Buron-Fosse, un soir, alors que nous marchions sur le boulevard de la gare à Sarcelles, nous avons évoqué la mort d'Émile Zola. Buron-Fosse s'est soudain arrêté et m'a déclaré « Aquin, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai confiance en vous ». À la fin du mois de septembre 1902, il y avait des travaux de réfection de la toiture d'une maison voisine de l'immeuble où habitaient les Zola. Nous avons profité du va-et-vient continuel des ouvriers pour repérer la cheminée qui correspondait à la chambre de l'écrivain, derrière, sur la cour. Quand nous avons su qu'il allait rentrer de Médan à Paris, selon son habitude, nous sommes montés sur le toit voisin et nous avons volontairement bouché la cheminée en question. Et le lendemain de son retour, le matin très tôt, nous sommes remontés sur le toit et nous avons débouché la cheminée. Personne ne nous a remarqués. Ce qu'il faut noter, c'est que cette confession, alors le mot n'est pas trop fort, de Buron-Fosse est intervenu quelques jours seulement avant sa mort, ou quelques semaines en tout cas, puisqu'il allait mourir quelques semaines, donc seulement après ses aveux faits à Pierre Aquin.
Catherine et Étienne, nouvel extrait de la bande originale du film Germinal, Franck.
Jean Bedel, évidemment, fait état de la révélation dans les colonnes de Libération dès octobre 1953. Pas mal de critiques, d'historiens, de spécialistes des lettres vont reprendre cette thèse. Mais il va falloir attendre quand même près de 50 nouvelles années pour que Jean Bedel publie en 2002 un ouvrage qui ne cache plus aucun des noms, puisque dans les premiers articles, ni le nom de l'assassin ni celui de son confesseur n'avaient été révélés. Ça s'appelle « Zola assassiné », c'est publié chez Flammarion. La préface de ce livre est signé d'un grand expert, le professeur Henri Mitterrand, qui martèle cette évidence. Je cite Henri Mitterrand « Toutes les enquêtes récentes ont ceci de commun qu'elles réfutent les conclusions de l'enquête officielle de 1902 et expliquent bel et bien la mort de Zola par une intervention humaine. » Vous imaginez déjà les questions que tout ça pose. Pourquoi aurait-on voulu tuer Zola? Et au-delà, pourquoi les autorités auraient-elles eu intérêt à laisser les assassins courir? Eh bien, ces questions et quelques autres, nous allons dans un instant les poser à Jean Bedel.
L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à la mort d'Émile Zola. Et pour en parler, vous recevez Franck, l'ancien journaliste Jean Bedel.
Eh oui, bonjour Jean Bedel. Merci bonjour. Beaucoup d'être des nôtres. Alors, évidemment, tous les amoureux d'objets d'art vous connaissent bien. Vous avez été sur les radios du service public l'homme des antiquités.
Commencé par Europe numéro 1.
Commencé par Europe. L'homme des antiquités, de la brocante et évidemment des ventes aux enchères, etc.
Tout ce qui est ancien m'intéresse.
Alors, cette affaire Zola nous ramène beaucoup plus loin dans votre carrière. Dès 1953, là, vous êtes tout jeune journaliste à Libération. Et on vous dit, il faut aller rencontrer cette espèce de monsieur Aquin, Pierre Aquin, qui a des révélations à faire.
Oui, en effet, nous avons reçu à la suite de l'article funéraire et occasionnel signé Jean Guignoubert, qui était directeur de la radio et ensuite... qui a dirigé en partie le journal Libération, première manière.
Oui, dans sa première formule, celle d'avant 68, on va dire.
Voilà, évidemment. À la suite de cet article, nous avons reçu une lettre de Pierre Aquin qui disait « Vous parlez de mort accidentelle, il ne s'agit pas d'un accident, il s'agit d'un assassinat politique ».
Alors ça, ça demande à être creusé, quoi.
Alors,
évidemment.
Jean-Guignard m'a dit « On ne peut pas... » laisser ça, il faut absolument qu'on vérifie tout ce qu'on peut vérifier après la mort de Zola.
Et vous avez contacté ce monsieur qui était en vacances dans les Landes et qui vous a dit « Attendez que je rentre en Normandie chez moi ».
Exactement. Et rentré chez lui, j'ai pu aller le voir tranquillement. J'ai passé une journée entière avec lui et j'ai été convaincu par la force des choses de tout ce qu'il me disait et... j'en ai tiré tout ce que je pouvais pour faire apparaître un personnage dont on hésitait à citer le nom. C'était un habitant de Sartelles qui s'appelait Buron Fosse, un entrepreneur de fumisterie qui travaillait sur un toit voisin au moment des faits.
Alors, quel genre de personne était Pierre Aquin déjà? Est-ce que, entre nous, vous n'allez pas me dire le contraire, évidemment Jean Bedel, mais est-ce qu'on pouvait lui faire confiance? Ça n'était pas un fantaisiste.
Voilà, au bout de longues conversations, j'étais convaincu de son honnêteté intellectuelle et de son parcours politique. Il avait été anti-Dreyfusard, devenu défenseur de Dreyfus. Mais Buron Fosse n'avait pas suivi la même voie. Il appartenait à ces groupes de la Ligue patriotique, etc., qui combattaient les Dreyfusards.
Si vous parlez de Dreyfusards et d'anti-Dreyfusards, c'est qu'évidemment, l'incroyable somme de haine qu'Émile Zola avait réussi à concentrer sur sa personne était directement liée à cette affaire Dreyfus qui a complètement marqué non seulement la vie politique, mais toute la société française à la fin du 19e siècle. Nous allons tout à l'heure ensemble revenir sur cette affaire Dreyfus, sur le rôle que Zola y a joué et sur l'intérêt que certains groupuscules auraient pu trouver à son assassinat. Pour rester sur dans le domaine des témoins et des témoignages, quel intérêt Pierre Aquin avait-il à révéler ce qu'il avait appris de la bouche même de Buron Fosse?
Eh bien, Buron Fosse lui-même a cherché, semble-t-il, à, prenant conscience de ce qu'il avait fait, à effacer son crime, qui a été le bouchage et le débouchage de la cheminée. Et Pierre Aquin, qui n'avait pas suivi les mêmes voies, se rendait compte que les faits qu'il apprenait de la bouche de Buron-Fosse étaient absolument authentiques et expliquaient ce qui paraissait inexplicable. C'est l'enquête faite en 1902 qui ne tenait pas debout. Ils avaient fait des...
Oui, on va venir à cette enquête aussi. Alors, à l'époque, en 1953, Pierre Aquin vous demande de ne pas citer son nom et de ne pas citer non plus celui de l'assassin qui avait confessé le crime. Mais c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous en tenir aux initiales à l'époque.
Oui, on n'a pas voulu sortir ce nom. Mais quand j'ai pu, 50 ans plus tard, vous l'avez dit, les années passent et elles sont lourdes, faire un livre, j'ai évidemment vérifié tous les points possibles.
Pierre Aquin est mort en 1970 ?
Oui, c'est ça.
Et Buron-Fosse était mort en 1928 ?
Oui, beaucoup plus tôt. Oui. Et trois mois avant sa mort, il a voulu, je pense, soulager sa conscience d'assassin en se livrant à son ami Pierre Aquin.
Alors vous nous le dites, Jean Bedel, l'enquête en 1902 a quand même été menée de curieuses manières, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas vraiment...
Rien n'a été vérifié, notamment les expériences faites avec trois cobayes qu'on a mis...
C'est des petits animaux hein,
qu'on a mis... Des petits animaux qu'on utilise en laboratoire, qu'on a mis dans les circonstances même où s'étaient trouvés les époux Zola, dans cette chambre, et... Une fois l'expérience finie, on a constaté qu'ils étaient toujours vivants alors qu'ils auraient dû mourir. C'est ça qui m'a le plus marqué et convaincu.
Il faut que nous revenions dans la matinée de ce 29 septembre 1902, Jean Bedel, au moment donc de la découverte des deux corps. Alors, il se trouve que celui de Madame Zola, d'Alexandrine Zola, est encore en vie. On a réussi à la sauver, elle. Pour son mari, c'était trop tard. C'est le commissaire Cornette qui est chargé de l'affaire. Il informe, évidemment, par voie hiérarchique, les plus hautes autorités. On peut imaginer qu'étant donné la personnalité, la célébrité de la personne décédée, ça remonte au moins jusqu'au ministre de la Justice, probablement jusqu'au président du Conseil qui se trouvait être à l'époque le ministre de l'Intérieur.
Qui était également ministre de l'Intérieur à l'époque.
Et toutes ces hautes personnalités nomment comme juge d'instruction le juge Bourouilloux, qui est quand même connu, c'est un monsieur très sérieux, irréprochable, mais qui est connu pour ne pas faire de vagues.
Oui, il avait été magistrat colonial et ma foi, il était habitué à se soumettre au désir du pouvoir. Et le désir du gouvernement d'alors, c'était surtout ne parlons plus, ne renouvelons pas une guerre civile possible.
Ne ranimons pas les cendres de l'affaire Dreyfus.
De l'affaire Dreyfus, qui est toujours présente à ce moment-là.
Il
ne
faut pas oublier
fortement.
Que. Mais oui, le procès en réhabilitation, enfin, la fin officielle de l'affaire Dreyfus, c'est 1906. Oui. Là, on n'est qu'en 1902. Oui. Donc, on n'est pas tout à fait encore sorti de cette histoire. Elle est en train de se.
L'innocence de Dreyfus a été reconnue.
A été reconnue.
Et tout ce que souhaitait le gouvernement, c'était qu'on n'en parle plus. C'était la période qu'on a dite de l'apaisement. Donc, surtout, acceptons la thèse qui est donnée par les experts. C'est une mort accidentelle. C'est une mort accidentelle. Ne cherchons pas plus loin.
Alors, l'inspecteur chargé de l'enquête, c'est l'inspecteur Geoffrey, qui quand même, lui, recueille des témoignages un peu étranges, notamment de la part d'un locataire du deuxième étage, Monsieur Guillemot, qui dit qu'il a fait réparer ses cheminées et que ces cheminées se trouvant très proches, les conduits se trouvant juste à côté de ceux de la famille Zola, après tout, dit-il, il aurait pu là y avoir un accident. On passe outre. Et puis, on parle d'un bouchon de suie, qui donc aurait empêché les fumées de s'échapper. Alors c'est intéressant, vous êtes venu vous-même un document, si je puis dire, une pièce à conviction, Jean Bedel.
Pendant mon enquête, j'ai évidemment été dans la maison de Zola rue de Bruxelles et je l'ai fouillé de la cave au grenier, jusqu'au toit. Où on accédait très facilement par un petit escalier en bois, je m'en souviens, et j'ai ramassé dans la cave un boulet dit Bernot, c'était sa marque.
Oui, bien sûr, le boulet de charbon.
Une accumulation de charbon qui se consume très doucement.
Donc nous avons avec nous dans ce studio le responsable de la mort d'Émile Zola.
Voilà, vous avez
le boulet de charbon.
Un boulet de charbon qui a contribué mettre fin aux jours de Zola.
Alors si un énorme bouchon, parce qu'il faut quand même quelque chose d'important dans, oui. pour bloquer, pour boucher un conduit de cheminée, si un énorme bouchon de suie est tombé dans ce conduit, c'est quand même, il a fallu qu'il y vienne d'une façon ou d'une autre. Et l'enquête nous dit, c'est venu à cause des trépidations de la rue.
Oui, c'est tout à fait risible, parce qu'il n'y a pas de trépidation dans la rue de Bruxelles, qui est pavée de bois, qui amortissent beaucoup le bruit des roues.
Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, on circulait encore essentiellement en voiture à hippomobile, en fiacre et en voiture à cheval, que les roues étaient bruyantes et que donc...
Tramway était silencieux relativement.
Voilà. On couvrait la chaussée pour amortir le bruit des sabots des chevaux et des roues. Oui. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de trépidation.
Puis s'il y en avait eu, on se demande pourquoi les habitants de la rue Bruxelles ne seraient pas tous morts dans les années précédentes.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y aurait beaucoup de suie qui serait tombée dans beaucoup de cheminées.
Donc Zola a été l'exception
qui a révélé les méthodes. La question qui se pose, c'est de savoir si ce fameux juge Bourouillou était vraiment aux ordres. Est-ce qu'on a classé l'affaire sans suite sur injonction du gouvernement ?
Il fallait aboutir à la thèse de la mort accidentelle par l'oxyde de carbone et un point c'est tout.
Il y a quand même le commissaire Cornette parlera, mais il parlera beaucoup plus tard. Jean Bedel, on vient à ce témoignage juste après ceci.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Adieu, forêt profonde, extrait de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno et interprété par Roberto Alagna. Les vers, Franck ?
Mais oui, c'est tout l'intérêt de diffuser ce petit extrait d'opéra, c'est que le livret est de Zola.
D'Émile Zola.
Et les vers qu'on entend dans cet air, Adieu, forêt profonde, sont d'Émile Zola. Vous découvrez quelque chose, Jean Bedel.
Oui, c'est tout à fait inattendu, comme bien des choses dans cette affaire.
Comme bien des choses. Alors, justement, il se trouve qu'en 1953, le fameux commissaire Cornette, qu'on n'avait pas entendu à l'époque,
en 1902... Le commissaire sur place, immédiatement, le premier à ouvrir l'enquête...
Il se met à parler.
Et il dit, finalement, je me demande si c'était vraiment un accident.
51 ans plus tard, il a eu le temps de réfléchir.
Oui, il a beaucoup réfléchi. Remarquez, il y a une sorte de parallélisme avec le cheminement de la pensée de Buron-Fos, qui lui aussi, il a fini par avoir mauvaise conscience.
Alors, ce qu'on se demande forcément, c'est pourquoi certains ont-ils voulu assassiner Émile Zola. Car si il n'est pas mort accidentellement, s'il est bien victime d'un meurtre, il faut qu'il y ait des mobiles à ce meurtre. Oui. Et pour ça, il faut revenir évidemment dans toute l'histoire de l'affaire Dreyfus, alors que je vais évoquer à très grands traits. Mais rappelez-vous cette condamnation du capitaine Dreyfus, donc c'était à la toute fin de l'année 1894. Dreyfus est condamné, dégradé dans la cour de l'école militaire. On l'envoie au bagne à Cayenne sur une accusation d'intelligence avec l'ennemi, d'espionnage. Oui, oui. On ne va pas rentrer évidemment dans tous les détails. Il faut attendre que le commandant Picard à l'été 1897 s'intéresse à l'affaire pour qu'on commence à se poser des questions sur la culpabilité de Dreyfus. On met bientôt en accusation le fameux commandant Esterhazy. On reviendra un de ces jours sur l'affaire Dreyfus parce que c'est une affaire tellement
passionnante. C'est lui qui est à l'origine du bordereau.
C'est lui qui avait fait le fameux bordereau. Il est blanchi par le Conseil de guerre en janvier 98 et dans la foulée, le 13 janvier 98, paraît dans l'aurore ce cri du cœur de Zola, un article extrêmement long, détaillé et très accusateur qui s'appelle, enfin que Clémenceau va titrer « J'accuse ». Oui. Et dès février, ça vaut à Zola un procès terrible, procès au cours duquel on va pouvoir enfin traiter de façon non militaire et publique de l'affaire Dreyfus. C'était le but de Zola, qui dit à son défenseur, Maître Laborie, plaidait davantage pour Dreyfus que pour moi.
Oui.
Finalement, les deux accusés dans le procès, dont Zola, seront condamnés. Zola est condamné à 1 an de prison ferme. Il se pourvoit en cassation. Et avant qu'on ait eu le temps de le condamner définitivement,
il file en Angleterre.
Oui. La violence à partir de ce moment-là contre Zola est inouïe. Il cristallise la haine de tous ceux qui considèrent le capitaine Dreyfus comme coupable ou qui, même s'ils veulent bien admettre qu'il ne l'est pas, veulent en tout cas discréditer dans cette affaire le juif qu'est Dreyfus,
voilà.
Et au passage blanchir l'armée, hein, puisque c'est une vraie question politique qui se pose. Zola est assimilé par les anti-Dreyfusards, je cite, à un métèque apatride. Il est accusé d'être passé au service de juifs censés former le syndicat des défenseurs de Dreyfus. Alors on le caricature, on le brocarde partout, c'est forain évidemment.
Et on le menace physiquement pendant le procès alors qu'il se rendait au palais. On a essayé de mettre son fiacre à la Seine. C'était déjà une première tentative d'agression contre...
La presse se déchaîne, la presse conservatrice. Dans le journal La Croix, un édito est carrément titré « Étripez-le ».
Oui.
Ça va quand même.
Crevez-le, extripez-le.
On a le témoignage d'Octave Mirbeau qui raconte, il passe un jour chercher Zola chez lui, il dit durant le procès un matin, c'est vous qui le citez Jean Bedel dans votre ouvrage Zola assassiné. Durant le procès un matin, écrit Octave Mirbeau, je suis allé prendre Émile Zola chez lui pour l'accompagner à la cour d'assises. Il achève de déjeuner, il est fort calme, les longues et terribles séances ne l'ont pas fatigué. Ces hurlements de mort qui chaque fois le poursuivent à son entrée et à sa sortie du palais ne l'ont même pas énervé. En voyant la justice civile se substituer à la justice militaire, la toque du juge coiffer le sabre du soldat, il n'a pas senti les atteintes du découragement. Au contraire, il est plein d'espoir parce qu'il est plein de foi, dit Mirbeau. Près de lui, une pile de journaux intacts sous leur bande, 2 ou 3 seulement dépliés et parcourus rapidement, d'abjects outrages, des entassements d'ordures, de sinistres appels au meurtre, comme toujours. Il n'a pas une plainte contre ces malfaiteurs qui le vouent à l'exécration publique. Il n'a pas une colère, nous dit Octave Mirbeau. On a l'impression que Dreyfus passe quasiment dans un état d'apesanteur à travers ces tombereaux d'insultes qui lui pleuvent dessus à longueur de journée.
Et Zola a été menacé sans cesse par des lettres où on annonçait qu'il allait crever, c'était abominable. Le courrier que m'a montré le petit-fils de Zola, le docteur Jacques-Émile Zola, il avait une quantité de lettres tout à fait odieuses qui s'en prenaient évidemment...
Donc, il est tout à fait plausible qu'on ait voulu le tuer. Pourquoi Buron-Fosse, Jean Bedel?
Alors, parce que, par une coïncidence géographique, il est venu travailler sur un toit voisin. Il était fumiste, mais dans tous les sens du terme. Et il a été tenté par l'idée...
C'est-à-dire qu'il y avait un tel climat, c'est le climat le vrai meurtrier, si je puis dire. Il y avait une telle atmosphère de haine, un tel concours d'insultes autour du personnage qu'il s'est dit, c'est trop beau, j'ai là la cheminée de Zola à portée de la main, eh bien, on va la boucher.
Et certains disent qu'il faut peut-être aller plus loin, et il était peut-être mandaté pour faire ce geste criminel.
On lui aurait demandé de le faire.
C'est bien possible, c'est une hypothèse.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Zola assassiné chez Flammarion, c'est le titre du livre de votre invité Franck Jean Bedel et c'est précisément ce qu'il nous raconte sur Europe 1.
Alors vous savez Julia que chaque année, le premier dimanche d'octobre, ce sera donc dimanche prochain, les amis d'Émile Zola effectuent une sorte de pèlerinage jusqu'à sa maison de Médan dans les Yvelines, on n'est pas loin de Poissy là. Cette maison est dédiée depuis 1984 au souvenir de Zola, c'est la maison de campagne de l'écrivain, c'était sa cabane à lapin comme il l'appelait, avec ce fameux bureau panoramique tout à fait extraordinaire, moi qui m'a toujours impressionné. Il faut aller la visiter cette maison de Médan, parce qu'elle est non seulement étonnante, mais très évocatrice. Nous avons la chance d'avoir en ligne Martine Leblon-Zola, qui est l'arrière-petite-fille d'Émile Zola, et la vice-présidente de l'association Maison Zola Musée Dreyfus, que préside Pierre Berger. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Merci d'être des nôtres. Alors, vous allez recevoir, comme d'habitude, les fanatiques, les amoureux de votre arrière-grand-père, ce dimanche
oui,
prochain.
Tout à fait, puisque depuis 1903, nous recevons les amis d'Émile Zola, et le pèlerinage littéraire a été créé par mon grand-père Maurice Leblon.
Oui.
Et cette manifestation est destinée à commémorer donc chaque année la mort de Zola. Comme vous avez justement dit, il a lieu le premier dimanche d'octobre et il n'a été interrompu que pendant la durée des deux guerres mondiales, voyez-vous. Alors, chaque année, les admirateurs de Zola se réunissent dans le jardin de sa propriété et entendent des allocutions qui sont prononcées par la plupart du temps par des personnalités du monde, des lettres et des arts, par exemple. Et puis, il y a aussi des communications qui sont faites par des maîtres de l'université, qui sont spécialistes de l'œuvre du romancier. Donc, cette année, nous avons la chance de recevoir Nicolas Demorand, directeur de Libération, et M. Christophe Refet, qui est maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne.
L'accès est libre ? Comment ça se passe ?
C'est libre, il y a des invitations pour la forme, si je puis dire, mais c'est libre. Donc, l'accès à la cérémonie est libre, et ça commence à 15h, donc, comme vous avez dit, juste à côté de Poissy. Alors, vous savez, je vais vous dire aussi pourquoi ce mot de pèlerinage, parce que ça n'a pas de connotation religieuse comme
évidemment,
l'évoque. Parce que je veux dire qu'à l'époque de Zola, on se rendait à pied de la gare de Villène jusqu'à la maison de Zola.
Oui.
Alors, on marchait vite, en quelque sorte, pour s'assurer d'avoir une place assise. Et on peut dire, on pèlerinait, en quelque sorte, sur les traces d'un homme mort. Et à l'époque, dont on se refusait d'accepter le silence. Alors maintenant, on célèbre Zola. Et puis pour amuser un petit peu vos auditeurs, il y a quelque temps, l'un d'entre nous disait « Aujourd'hui, c'est la Saint Zola ». Puis un autre affirmait « Aujourd'hui, c'est la fête à Zola ».
Eh oui, la fête à Zola. Cette maison, cette demeure, cette cabane à lapin, comme il l'appelait lui, avec ce fameux grand bureau d'Émile Zola, elle est ouverte toute l'année, on peut la visiter ?
Oui, mais écoutez, on peut la visiter jusqu'à samedi, puisqu'à partir de dimanche, on ferme la maison.
Alors voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire, c'est que vous lancez dans des travaux, là, en fait.
Si vous voulez, on ferme la maison dimanche soir, juste après le pèlerinage, pour débuter des travaux de réhabilitation de la maison de Zola. Donc ce sont des travaux qui débutent, je dirais, grâce à la générosité de notre président, la personne de Pierre Berger, et des collectivités territoriales telles que le département, la région et même l'État qui nous aide.
Alors, vous allez installer dans la maison une sorte de musée de l'affaire Dreyfus ?
Non, c'est pas tout à fait ça. D'abord, nous réhabilitons la maison. En fait, on fait le clou et le couvert.
Oui, déjà.
La toiture, enfin, les ravalements, l'électricité, enfin, parce que cette maison est quand même très malade, donc elle a besoin de soins. Donc, on va en prendre soin. Et alors là, c'est une première tranche dans notre projet Maison Zola Musée Dreyfus, qui est donc mené par Pierre Berger, sans lequel on ne pourrait pas faire tout cela. Et dans une deuxième tranche, un petit peu plus tard, en fonction de l'avancée de tous ces travaux, sera installé un musée Dreyfus, mais dans une aile des bâtiments, dans la maison elle-même.
D'accord. Qui restera dédiée au souvenir du grand écrivain.
C'est la maison de Zola qu'on remet un petit peu dans son jus. Vous savez, on a la chance d'être musée de France, on a reçu maintenant le label Maison des Illustres, donc on est très fiers, parce que l'État reconnaît tous les efforts.
Est-ce que je peux vous demander, Martine Leblon Zola, mais est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez, vous, de cette hypothèse du meurtre de votre arrière-grand-père ?
Écoutez, d'abord, on n'a pas de preuves.
Non, ça, bien sûr.
La mort de Zola.
On
n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. On émet des hypothèses, donc c'est toujours difficile de se positionner. Mais c'est certain qu'après l'affaire Dreyfus, tout mène à croire qu'il a été assassiné. D'ailleurs, il y a le livre de Jean Bedel.
Qui est avec nous.
Il a fait une petite interview, d'ailleurs, qui est son livre.
Je voudrais me permettre de vous citer, si vous permettez. Vous m'aviez dit quelque chose comme ça. Si on peut établir qu'il s'agit d'un assassinat politique, ce serait d'une certaine façon reconnaître son ultime grandeur à Zola.
Je pense que c'est un joli mot de conclusion. Merci Jean Bedel. Merci beaucoup Martine Leblon Zola. J'imagine que très nombreux seront les amoureux de Zola à vous rejoindre dimanche prochain. Merci beaucoup. Zola assassiné, c'est le titre, Jean Bedel, de votre ouvrage chez Flammarion. J'aimerais que nous nous quittions sur l'image de cette foule immense qui entourait les proches de Zola lors de l'inhumation de l'écrivain le 5 octobre 1902 au cimetière Montmartre. Devant la fosse ouverte, Anatole France, superbe comme toujours, allait lancer sa fameuse formule « Envions-le, il fut un moment de la conscience universelle ». Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la sortie du film Un heureux événement. Un heureux événement, c'est quoi ?
Avec Luc Bourgoin.
Exactement, en partenariat avec Europe 1. C'est la naissance d'un bébé. Alors nous, aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais on va vous parler de tout ce qui n'est pas merveilleux quand le bébé arrive. C'est vrai que les joies de la maternité, c'est formidable, mais c'est parfois usant. Alors, vous avez des questions, on en parle avec les experts Europe 1 et vous posez vos questions au 3921 ou sur europe1.fr.
Merci beaucoup, Elena.
Merci à vous, Franck. Et puis, je voudrais juste informer nos auditeurs. On vous retrouve ce soir sur France 3.
Ah oui, on change de média ce soir.
On change de média à 22h50. Vous nous dites un petit mot de ce qui va se passer.
Oui, ça s'appelle L'ombre d'un doute. C'est une nouvelle émission d'histoire sur France 3 et c'est une émission d'enquête. Vraiment, ce sont des enquêtes très approfondies. Ce soir, on va parler de Louis XIV et de l'affaire des poisons. Ce qu'on a réussi à découvrir sur cette histoire des poisons est assez extraordinaire. Donc, je suis assez fier de ce qu'on a à vous montrer ce soir.
C'est passionnant. J'espère que les auditeurs seront de nombreux téléspectateurs à vous suivre sur France 3. Bonne
merci,
chance,
Julia,
Franck.
Je
vous embrasse. À demain sur Europe 1.